désirais parler un petit peu sur cette question de l'intelligence que les sacrificateurs, chefs des pères et lévites désiraient avoir. Alors, on a souligné l'importance de l'action de l'esprit et cette compréhension de la parole est donc soumise à l'action de l'esprit et au contrôle de la parole. La parole s'interprétant par l'écriture elle-même. Et c'est à cet égard qu'il est important de contrôler tout enseignement qui est donné et à cet égard l'enseignement que nous avons reçu de frères plus anciens dont on a déjà parlé se prête très bien au contrôle de l'écriture. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. La lecture de ces écrits et leur compréhension ramènent à l'écriture leur autorité s'impose parce qu'ils présentent l'écriture. Et inversement, il y a des enseignements qui donnent des sujets de soucis et de craintes qui précisément ne tiennent pas devant le contrôle de l'écriture. C'était l'attitude des Béréens qui contrôlaient même ce que Paul disait par l'écriture. À la fois, nous avons été exhortés plusieurs reprises à tenir le plus grand compte de ce qui est donné dans les réunions d'assemblée, les réunions d'édification, mais à la fois l'assemblée est colonne et soutien de la vérité et à contrôler ce qui est donné dans cet enseignement pour qu'il soit conforme à la vérité, conforme à l'écriture. En rapport avec cette intelligence donnée dans l'écriture, on trouve plusieurs choses dans notre texte même. Nous avons donc déjà vu toute cette question à la fois de l'affliction et de la joie, savoir en quoi il y avait le moment qui convenait à la joie et le moment qui convenait à la tristesse et à l'affliction. Et on ne saurait trop insister encore sur ce point parce que, étant dans des temps où il y a beaucoup de sujets de découragement, il y a un véritable problème de savoir quelle est l'attitude qui convient, est-ce que c'est la joie ou l'affliction. Et quelque chose qui donne l'intelligence de cela, on peut le voir dans Néhémie lui-même, qui au début de son livre, il demande à son frère qui était revenu du pays quand il était encore en déportation, il a demandé à son frère quel était l'état, qui avait été faire un voyage, quel était l'état du peuple, et qui lui a dit, et il en a pleuré. Quand il va lui-même dans le pays, première chose, il va constater l'état des choses, autrement dit, il ne se bouche pas les yeux. Ce n'est pas, selon l'expression du monde, la politique de l'autruche qui consiste à fermer les yeux sur les problèmes. Il les voit, il les regarde en face, mais après, il prend l'énergie et la confiance dans le Seigneur et dans la bonne main du Seigneur qui intervient et qui l'aide pour faire son travail. En sorte qu'il y a donc toujours ces deux sentiments, à la fois conscience des vrais problèmes, conscience de la ruine, mais se réjouir dans le Seigneur, se fortifier dans sa force. Et ce sont des choses que nous retrouvons dans Timothée, ou 2 Timothée, où à la fois on voit tous les sujets de découragement qui sont cités, n'est donc pas honte du témoignage de Jésus-Christ, mais en même temps des sujets d'encouragement. Fortifie-toi dans la grâce, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, la force qui est dans le Christ Jésus. Alors un autre aspect également de cette intelligence donnée par l'Écriture elle-même, nous l'avons donc, on en a fait allusion, mais je désirais préciser ce point relativement aux différentes fêtes. On a souligné donc qu'il n'y avait pas cette fête des propitiations. Mais au fond, pourquoi, on peut se demander, on aurait pu se dire, mais enfin, puisque l'Écriture dit qu'il faut faire cette fête des propitiations, pourquoi précisément, premièrement, pourquoi l'ont-ils pas faite? Et deuxièmement, pourquoi, ayant lu l'Écriture, ils n'ont pas compris qu'il fallait la faire en même temps que la fête des tabernacles? Alors, je crois que, en fait, comme il a été dit, donc l'arche n'était plus là. La base même de la fête des propitiations consistait à avoir un accès à Dieu en portant le sang dans le lieu très saint sur le propitiatoire. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas d'arche et pas de propitiatoire, la fête ne pouvait pas être proprement réalisée. Sauf erreur de ma part, d'ailleurs, je ne crois pas que à partir de ce moment-là et dans le reste de l'Écriture, y compris les Évangiles, il soit réellement fait mention de cette fête des propitiations. Notons que dans le sens actuel, les Juifs célèbrent cette fête des propitiations comme étant l'une des fêtes principales où ils confessent leurs péchés, mais précisément, il reste un problème majeur à cette fête, c'est qu'il n'y a pas de propitiation, il n'y a pas de temple, et il n'y a pas de sacrifice pour le péché, alors que, en voulant obéir à la loi, le seul moyen de se résoudre le problème du péché, c'est un sacrifice. N'ayant pas le sacrifice du Seigneur, la fête perd l'une de ses bases fondamentales. Par contre, donc, il réalise les deux autres fêtes, le mémorial de jubilation, la fête des trompettes, premier jour du septième mois dont on a parlé, et la fête des tabernacles. Alors, on a souligné tout à l'heure ce côté dans la fête des tabernacles du fait que nous réalisons ce caractère d'étranger. Alors, je souhaiterais rappeler exactement ce que donne l'Écriture quant à cette fête des tabernacles. Cette pensée que nous avons, qui a été énoncée tout à l'heure, relative au fait que c'était un souvenir du temps où ils étaient dans le désert, c'est donc dans Lévitique 23, au verset 43, déjà le verset 42, « Vous habiterez 7 jours dans des tabernacles, tous les indigènes en Israël habiteront dans des tabernacles, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des tabernacles lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte. » Donc, souvenir de ce qui a été fait. Alors, on a dit tout à l'heure également que c'était un signe avant-coureur, un type du moment du repos final dans le peuple de Dieu. Alors, je désirais expliquer pourquoi il y a ces... et en quoi il y a ces deux sens selon l'Écriture. Donc, cette pensée de la fête des tabernacles représentant le temps du millénium, le temps de la paix du peuple demeurant dans son pays, se déduit en fait précisément de Lévitique 23 et du déroulement des différentes fêtes de liturgique au cours de l'année, et puis il se déduit également de Deutéronome 16, où dans les trois fêtes où le peuple d'Israël devait monter à Jérusalem, c'était la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et je rappelle qu'en Deutéronome 16, on a donc cette distinction où pour la Pâque, il n'est pas question de joie, il est question par contre des herbes amères. Pour la Pentecôte, tu seras joyeux, et pour la fête des tabernacles, tu ne seras que joyeux, c'est le repos final et définitif, c'est ce que développe Deutéronome 16. Mais alors, quelle est la relation encore entre cette pensée cette pensée d'être forain étranger, du souvenir du désert par rapport à ce type du repos final? Alors, nous avons quelque chose, nous savons que donc les fêtes de l'Éternel se trouvent au complet dans Lévitique 23, se retrouvent donc les trois que nous avons mentionnées dans Deutéronome 16, et que nous les retrouvons, les différentes fêtes au complet, en nombre 27 et 28, mais que nous y trouvons là un autre aspect, c'est en nombre 27 et 28, c'est le pain, la nourriture de l'Éternel, le pain de l'Éternel. En quoi, qu'est-ce que représentaient ces fêtes pour l'Éternel? C'est un autre aspect des choses. Et alors, on sait que dans la fête des tabernacles, telle qu'elle est développée dans nombre 28, on trouve quelque chose. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter en détail sur ces questions-là. Je passe très rapidement, mais c'est quand même un point important. Nous trouvons un nombre de sacrifices qui, au niveau des taureaux, était le premier jour de 14, sauf erreur, Et il diminuait de un taureau chaque jour, 13, enfin pourrait le nombre exact, nous le trouverons rapidement, c'est donc dans nombre 28, 29, et au verset 13, il y avait le premier jour, le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, il y avait 13, verset 13, 13 jeunes taureaux. Verset 17, le second jour, il y en avait 12. Verset 20, le troisième jour, il y en avait 11. Et ça diminue, le septième jour, il y avait 7 taureaux. Et en fait, derrière ce nombre des taureaux décroissant, il y a un sens moral extrêmement profond. C'est que, il y avait, d'une part, les sept, si je pouvais m'exprimer ainsi, les 7 taureaux de base, ceux qu'on trouve au septième jour encore, la perfection totale de l'œuvre du Seigneur, telle qu'un fidèle, telle que Dieu lui-même la voyait, la réalisait, la saisissait, une œuvre qui répondait à tout. Mais quant à ce que l'homme en réalisait, quant à ce que l'homme, le peuple de Dieu y compris, en vivait ou en saisissait, une décroissance tout au long de la fête. Et on a là quelque chose qui est à la fois humiliant et dramatique. C'est-à-dire que dans l'une des plus belles fêtes données au peuple d'Israël, dans l'une des fêtes qui donnait, qui signifiait le plein résultat de toute l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple, il y avait, au début, on saisissait la valeur de son œuvre, de cette œuvre de Dieu, et après, le sens de la portée de cette œuvre diminuait, on perdait le sens de ce que Dieu avait fait, on perdait le sens et la valeur de ce qui avait été réalisé. Et c'est en cela que, au fond, on a la relation à ce moment-là avec cette fête, le sens vrai de cette fête des tabernacles, le souvenir de ces tabernacles du désert. C'est-à-dire que dans la joie que vous avez réalisée, dans la joie que Dieu peut vous donner et peut nous donner, réalisons et réalisez ce que Dieu a fait, ce qui vient de Dieu, ce qui est de lui. Et c'est le souvenir de ce que Dieu a fait qui réellement donne la solidité à la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. On retrouverait cette pensée de Deutéronome 8, quand tu seras arrivé dans le pays, tu devais te souvenir, alors Deutéronome 26, te souvenir de mon père qui était un araméen qui périssait, Deutéronome 8, te souvenir de ta sandale qui ne s'était pas usée. Et fête des tabernacles, se souvenir de toute cette œuvre de Dieu qui avait délivré le peuple d'Égypte, le tyran de là, et qu'il avait permis de vivre pendant 40 ans sous des tentes, malgré toutes les difficultés du désert, la puissance et la force de l'ennemi. Eh bien, ce qu'il faut retenir pour nous, c'est à la fois donc cette intelligence que donne la parole, du sens vrai des choses, du sens profond des choses, du sens des faits, des sens des significations que donnent les choses. Mais en même temps, que nous puissions, dans un temps d'humiliation et de détresse, nous souvenir de ce que Dieu a fait, de l'œuvre de Dieu, et que si du côté de l'homme il n'y a que déclin, et que même dans les choses les plus belles, comme la fête des tabernacles, il y a eu et il y aura déclin, il en reste pas moins que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le seul sujet d'encouragement, c'est dans le souvenir de ce que Dieu a fait, qui donne une certitude, le Seigneur étant le même, cela donne une certitude que son travail, il le poursuivra encore et toujours jusqu'au bout, dans sa fidélité, car c'est ce qui le caractérise.
On peut remarquer aussi que la fête des tabernacles était en relation, bien sûr, avec le temps futur du règne, et qu'il y avait donc ces 7 jours où nous voyons la préfiguration de ce repos de Dieu pendant ce règne de justice et de paix. Et il y avait le 8e jour qui était le grand jour de la fête. Dans l'application typique pour nous, ce 8e jour est un jour extraordinaire parce que il nous parle du commencement d'une nouvelle semaine. Et c'est pourquoi on peut dire que nous avons là l'aspect céleste qui est notre part. C'est en fait le jour éternel, une semaine qui n'a pas de fin. Et nous voyons que ici la parole a été lue, il célébrera la fête 7 jours, et on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. L'accent ici n'est pas mis sur les sacrifices, on ne les voit pas ici, mais par contre toujours sur cette valeur de la parole de Dieu. Et cette pensée justement nous fait reporter au temps où le Seigneur est entré à Jérusalem. Il y a eu comme une ébauche de cette fête des tabernacles. Il y avait des rameaux, il y avait des palmiers, des branches de palmiers qui étaient mises sur son chemin. Et cela nous réjouit de savoir qu'il y avait comme une préfiguration. Mais le Seigneur était rejeté. Et d'autre part, alors si nous nous reportons toujours dans cet évangile de Jean, n'est-ce pas, au chapitre 7, nous voyons le Seigneur qui a parlé au grand jour de la fête. Chapitre 7 de l'évangile de Jean. Dans ce chapitre 7, il nous est dit, au verset 1er, que Jésus se tenait en Galilée. Jean 7, verset 1er, car il ne voulait pas se tenir en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Voilà le rejet du Seigneur. Or, la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ce n'était plus la fête des tabernacles dans sa vraie signification. C'était la fête des Juifs. Une fête qui n'avait pas la valeur, la valeur spirituelle qui avait été donnée par Dieu. Alors le Seigneur nous dit qu'il ne va pas monter à cette fête. Mon temps n'est pas encore venu. Verset 6. Mais votre temps est toujours prêt. Ses frères allaient monter à la fête. Je n'entrerai pas dans le détail. Mais alors, nous voyons le Seigneur qui, verset 14, comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Trouvant encore là la valeur de la parole de Dieu, il enseignait. Et ensuite, verset 37, en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria disant, « Si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. » Alors, c'est ce 8e jour typique de l'état éternel. On peut dire typique de la nouvelle création. C'est l'annonce déjà de ce nouveau terrain sur lequel nous sommes établis après la résurrection du Seigneur, n'est-ce pas? Et le Seigneur alors dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est encore aujourd'hui ce qui va rafraîchir nos cœurs. Et c'est cette, bien sûr, il est dit, des fleuves d'eau vive courront de son ventre. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Voilà maintenant l'annonce de la venue du Saint-Esprit qui est pour nous cette puissance de Dieu par laquelle nous allons à la fois être nous-mêmes rafraîchis, fortifiés, et puis aussi le courant va pouvoir aller à d'autres. On peut aussi remarquer, en relation avec notre passage de Néhémie 8, que la fête des trompettes, la fête du premier mois, elle était à la nouvelle lune. C'était donc le temps où il faisait nuit. Et puis, progressivement, la lumière augmentait, la lumière de la lune augmentait jusqu'au 15e jour, la fête des tabernacles. Et il serait bien, bien heureux que pour nous, justement, cette conscience des bénédictions que nous avons ainsi par la parole puisse en nous réveiller. Et c'était ce réveil qui était vu justement dans cette première fête du premier mois. C'était la seule fête d'ailleurs, qui était le premier jour du septième mois, pardon, premier jour du septième mois. Et cela nous fait penser à des passages tels que nous les trouvons en Romains 13, par exemple, lorsque nous avons ce passage, le salut, fin du verset 11, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Cela nous fait penser à l'expression d'Éphésiens 5 aussi, où nous trouvons « Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ luira sur toi ». Toujours cette pensée de ce rassemblement aussi qui est lié à cette, ce qui était lié à cette fête du premier jour du septième mois. Et d'autre part, nous avons donc la pensée aussi, si nous lisons par exemple dans la deuxième de Pierre, nous voyons l'apôtre qui dit aux chrétiens hébreux devenus croyants, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Voilà, il y avait là une prise de conscience que le jour allait commencer à luire, et ce jour qui commençait à luire, il était en relation avec la venue du Seigneur pour chercher son Église. C'est à ce moment-là que le jour, ce jour qui est justement, qui nous parle du règne à venir, du jour de gloire, va commencer à luire. Et déjà nous pouvons, dans nos cœurs, en avoir l'anticipation. Et nous avons l'étoile du matin qui est Christ lui-même dans nos cœurs. Bientôt se lèvera le soleil de justice, et à ce moment-là, ce sera, on peut dire, la fête des tabernacles dans sa portée prophétique.
Nous voyons encore dans ce paragraphe toute l'importance que prend pour ce peuple l'autorité de la parole de Dieu. Déjà, nous avons vu, en y insistant, que ceux qui avaient charge de l'enseignement, ceux qui étaient plus responsables au sein du peuple, les chefs des pères, les sacrificateurs, les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe, et cela pour devenir intelligents dans les paroles de la loi. Voyons donc que ceux qui enseignent éprouvent un besoin urgent de revenir à la loi de tout leur cœur pour être intelligents dans les pensées de Dieu. Et nous retrouvons la même pensée, il y a été fait allusion sans que nous lisions le passage en 2 Timothée 2, lorsque l'apôtre dit à Timothée, « Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses, en toutes choses. » Cette intelligence spirituelle est la faculté qui nous fait connaître les pensées de Dieu, et elle s'acquiert et se maintient par la soumission à l'action de la parole et de l'esprit conjugués, sans y apporter quelque raisonnement humain, hélas comme cela se voit aujourd'hui. Et nous voyons aussi que l'apôtre veille à transmettre la vérité aux différentes générations. Il peut dire à Timothée, dans ce même chapitre 2, au verset 2, « Les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles. Enseignez la vérité à ceux qui ont à cœur de la pratiquer. Cela est à maintenir les principes divins. Et nous avons toujours besoin d'une croissance spirituelle tant que nous serons sur la terre. Cette pensée traverse l'Écriture, cette croissance du croyant, dans les voies de la piété, dans la connaissance des pensées de Dieu. Alors nous voyons d'abord Timothée qui avait reçu les paroles de l'apôtre, et il en avait été pleinement convaincu, comme il le lui dit. C'est ce qui manque aujourd'hui peut-être, cette pleine conviction quant à la vérité de Dieu, qui nous est enseignée en lisant la parole, mais aussi en l'entendant lorsque nous sommes réunis en assemblée pour que la parole soit présentée. Et puis, alors, les choses que tu as entendues de moi, devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles. troisième génération d'hommes qui soient capables d'instruire aussi les autres. Et cette capacité, bien sûr, vient de Dieu. Et nous voyons tout au long des générations, la pensée de Dieu, c'est de transmettre fidèlement la vérité. Et c'est d'autant plus précieux aujourd'hui que nous avons toute l'Écriture entre nos mains. Encore faut-il des dons qui puissent découper droit la parole de Dieu, des docteurs qui présentent la vérité dans ses différents aspects pour l'édification des saints. Et bien sûr, cette intelligence spirituelle, elle se développe, elle s'acquiert tout d'abord, elle se développe dans un esprit de prière, comme selon cette prière bien connue des Colossiens que l'apôtre formulait pour eux, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse qui se pénètre des pensées de Dieu et qui applique ces pensées de Dieu à nos pensées, à nos actes, par l'action de l'esprit. Et par l'intelligence spirituelle, nous discernons la volonté de Dieu. Et alors, il est ajouté, pour marcher, nous voyons le but de cette intelligence, de cette sagesse donnée de Dieu, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur, lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà des éléments clés de la vie de la piété découlant de ce discernement de la volonté de Dieu. Et alors nous voyons ensuite, pour se conformer à la fête des tabernacles, aux prescriptions qui étaient données dans la loi, qu'ils se conforment aussi rigoureusement qu'on avait pu le faire du temps glorieux de Josué. On remonte à ce qui est dès le commencement, c'est-à-dire au moment où le peuple est entré dans la jouissance des bénédictions promises par Dieu, dans cette Canaan dont il était dit qu'elle était un pays ruisselant de lait et de miel. Tant il est vrai que ce que Dieu veut nous donner, aussi bien pour le peuple terrestre que pour le peuple céleste, ce sont de bonnes choses, des choses qui font du bien. Et nous voyons donc qu'il se conforme à ces prescriptions. On ne saurait assez insister sur l'importance de revenir à ce qui est dès le commencement et que nous pouvons saisir encore aujourd'hui, malgré les temps de ruine, avec le secours du Saint-Esprit. L'Esprit étant libre d'agir dans notre âme pour nous instruire, comme le dit le Seigneur, celui-là me glorifiera. Il vous conduira dans toute la vérité. Le rôle du Saint-Esprit est incalculable dans la connaissance vraie, saine des Écritures. Et puis ensuite, il nous est dit aussi que pendant tous les jours de la fête, eh bien, on lut. Au verset 18, dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Il fut un temps où pour la première fois, 6 heures avaient à peine suffi pour entendre le scribe Esdras lisant la loi de son Dieu. Eh bien maintenant, c'est tous les jours. Et plus on a faim de la parole, plus on a besoin de la lire, de la méditer avec soin. C'est un vaste champ de méditation qui s'offre à notre intelligence spirituelle. Ce sont des richesses inépuisables. Et nous invitons la jeune génération, en particulier les jeunes frères, sans exclure pour autant les jeunes sœurs, à réserver ce temps précieux. Il a été question ce matin des premières heures de la journée, de la première heure de la journée, et combien cela est important. Mais n'hésitons pas à éliminer de nos vies tout ce qui est vain pour consacrer du temps à la lecture attentive, à la méditation pieuse de l'Écriture, recherchant une explication de la parole par la parole. Et n'hésitons pas à consulter, comme on l'a dit aussi, ceux qui peuvent supporter la lumière de l'Écriture quant à leurs écrits. Les dons écrits, nous en serons tenus pour responsables aussi si nous les avons appréciés ou si nous les avons négligés. Et il y a là un dépôt très précieux et l'apôtre pouvait dire à Timothée, garde le bon dépôt, une injonction personnelle, garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Et pour Timothée, il ne pouvait avoir que quelques copies de ce que Paul lui disait, comme il le dit, et un modèle des saines paroles.
Eh bien, pour nous, nous avons toute l'Écriture, ce qui nous responsabilise sans aucun doute. Mais la grâce de Dieu aidant, eh bien, un frère et une sœur peuvent croître dans les voies de la piété, dans la sagesse et dans l'intelligence spirituelle, en méditant avec un cœur sensible ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et ainsi, nous serons gardés d'être circonvenus par l'ennemi, et en même temps, nous pourrons être extrêmement utiles au peuple de Dieu, parce que chacun, selon la sphère où il est placé, peut magnifier les gloires du Seigneur en s'appuyant fermement sur sa parole.
Au verset 17, nous avons cette expression remarquable: il y eut une très grande joie. Ramenant donc au temps de Josué, il n'y avait pas eu de fête semblable depuis ce temps-là. Et cela nous encourage, parce que cela nous rappelle que la joie, et même une très grande joie, n'est pas incompatible avec des temps de faiblesse. Il y a bien des sujets de peine, et nous en avons précédemment, nous avons des larmes versées au verset 9, et puis le chapitre 9 est un chapitre marqué par l'humiliation. Je ne sais pas si nous aurons beaucoup de temps pour en dire quelque chose, mais entre les deux, voilà, on constate que il peut y avoir une très grande joie. Dans l'ordonnance à laquelle on s'est référé, au chapitre 23 du Lévitique, il était dit « Tu ne seras que joyeux ». Et cet impératif nous étonne un peu. C'est un commandement d'être joyeux. Quand il y a des temps de faiblesse et de ruine, n'est-ce pas, on peut dire « Mais sois joyeux ». C'est un peu cruel, à la limite, d'imposer la joie à quelqu'un qui est triste. Difficile de concevoir cela. Mais il y a en même temps les motifs pour la joie. Et encore une fois, le cœur du croyant, il peut être habité, et il doit l'être, par cette joie, indépendante des circonstances, parce qu'il connaît le Seigneur, parce qu'il peut se réjouir toujours en lui, comme il est dit dans les Philippiens. Rappelons ce verset, parce qu'il est si important, plus important que jamais, dans la mesure où nous pourrions nous appesantir sans cesse sur la ruine et sur notre misère. Et c'est sûr que nous devons en avoir conscience. Mais la joie, une très grande joie même, peut habiter le cœur du croyant. C'est très frappant qu'ici, tout à la fin de l'histoire du peuple dans l'Ancien Testament, consolé comme il l'a été par Néhémie, qui nous fait penser donc au Saint-Esprit, le consolateur, voilà, l'âme est consolée, et il y a une très grande joie que le Seigneur nous donne de la réaliser, envers et contre tout. Puis alors, viendra le chapitre 9, et oui, il y a cette humiliation. Mais, on peut presque dire, elle procède d'âmes qui maintenant sont ranimées, réveillées quant aux choses divines. Pas seulement la conscience qui est touchée, mais il y a eu cette réalisation de ce que le Seigneur avait fait pour ce peuple, faisant habiter donc dans le désert, sous des tentes. Toute la grâce de Dieu envers eux, elle a été placée devant eux. Ils l'ont traduite par cette fête des tabernacles qu'ils ont célébrée. Eh bien maintenant, voilà, on mesure le contraste entre ce que Dieu avait fait, ce que Dieu attendait du peuple, toute cette grâce qui s'était déployée envers lui sans qu'il y réponde comme Dieu l'attendait. Alors voilà, le peuple conscient de sa misère, et l'humiliation va être vraie, profonde, à la différence de ce que nous aurions lu tiré du verset 9, oui, la parole les a amenés à mener deuil, c'est vrai. Mais maintenant, on peut dire, c'est le contraste avec ce que Dieu a fait pour eux et la joie dont ils ont goûté quelque chose, une joie intense. Alors ils peuvent se dire, mais oui, mais où en sommes-nous par rapport au Seigneur? Quel déshonneur a été jeté sur son nom? Et ils s'assemblent pour cela, vêtus de sacs, de la terre sur eux. Et nous avons ce chapitre 9. Et il nous est dit au verset 2, la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger. Là, il y a une séparation nécessaire. On mesure qu'il y a eu là une transgression, que la muraille spirituellement n'a pas été respectée. Les fils de l'étranger ont eu accès au peuple, et il y a eu ce qu'on trouve à la fin d'Esdras aussi, n'est-ce pas, ces unions contre nature avec des peuples païens. Et maintenant, il s'agit de nouveau de réaliser cette séparation. Les fils de l'étranger ne peuvent pas avoir part ni à la joie, ni à l'humiliation.
Sans vouloir revenir en arrière, simplement une pensée sur le verset 15. Il est dit, sortez dans la montagne, apportez des branches d'olivier sauvages. Quelle était cette montagne? C'était la montagne des oliviers. Cette montagne que nous dit le prophète Ézéchiel, dans chapitre 11 de son livre. Nous lisons quelque chose qui est attristant, sans doute. D'ailleurs, dans le livre des chroniques, sauf erreur, elle est appelée la montagne de corruption. Mais ici, dans ce chapitre 11, il est dit au verset 22, et les chérubins levèrent leurs ailes, et les roues étaient auprès d'eux. Et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, en haut. Et la gloire de l'Éternel monta du milieu de la ville et se tint sur la montagne qui est à l'orient de la ville. La gloire s'en va. Et ici, nous savons que dans notre livre de Néhémie, pas mon peuple, Lo-ami, est sur Israël. Eh bien, Dieu veut nous transporter plus loin. Et je pense qu'il vient à la pensée de chacun de voir ce passage de l'évangile de Luc que nous pouvons lire avec profit. C'est dans le chapitre 22, verset 39. Et Jésus, sortant, s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit, priez pour que vous n'entriez pas en tentation. Il s'éloigna d'eux lui-même dans environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Et un ange du ciel lui apparut, le fortifiant, et étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Oui, quelle scène! Et il nous convient en effet de sortir à cette montagne des Oliviers, de contempler là celui qui souffrait, celui qui a livré ce combat terrible. Car avant la croix, il y a eu ce jardin de Gethsémané, ce combat où le Seigneur avait devant lui d'être fait péché pour nous. Et il nous demande d'entrer quelque peu dans ce qu'ont été ces souffrances-là, car c'est pour nous qu'il a connu de tels moments, une telle angoisse, dans l'angoisse du combat. Quel combat! Pour que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Eh bien, il nous convient en effet de sortir à cette montagne. Et puis, les passages que nous avons lus, les branches d'olivier et d'olivier sauvage, nous font penser à Romains 9, où l'olivier sauvage est greffé sur l'olivier franc, ce qui est contre nature. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit ici les branches d'olivier et ensuite d'olivier sauvage. Bien, Dieu veut toujours nous enseigner dans l'Écriture. Puissions-nous retenir aussi ce que il veut nous dire par ce moyen. Une autre pensée aussi en passant, c'est que la fête des tabernacles, eh bien, elle est après quoi ? Après la moisson, mais aussi après la vendange. C'est-à-dire après le jugement que Dieu va exercer sur la terre et que nous lisons en particulier en Apocalypse 14. Ou alors, qu'il y a le fruit de la vigne, qui est la faucille lancée, et le jugement doit tomber sur la terre avant l'établissement du règne. Voilà les vérités qui sont placées devant nous. Mais pour nous, bien sûr, il y a l'attente du retour du Seigneur, le règne avec Christ, car nous avons une position et une bénédiction bien supérieure à celle du peuple d'Israël. Puissions-nous en être profondément reconnaissants.
Remarquons encore la progression qu'il y a dans l'attachement du peuple à la loi de l'Éternel. Au verset premier, il était dit que le peuple s'assembla, c'est-à-dire il créa les conditions favorables pour entendre la parole de Dieu. Ensuite, il est dit qu'ils dirent à Esdras, autrement dit, ils montrèrent à Esdras, dépositaire de la loi de l'Éternel, qu'ils désiraient la connaître. Ensuite, nous l'avons relevé, ils montrèrent, il est dit qu'ils élevèrent leurs mains, qu'ils s'inclinèrent, se prosternèrent, qu'ils montrèrent tout leur intérêt, mais le respect de la parole de Dieu. Un peu plus loin, il est dit que les chefs, au verset 13, les chefs et les sacrificateurs et les lévites, ceux qui avaient une responsabilité particulière, viennent s'enquérir d'une façon plus profonde de la pensée, de la loi, pour pouvoir à leur tour donner une instruction selon la parole de Dieu à tout le peuple. Ensuite, il est dit qu'au verset 15e, il devait faire entendre et faire passer une proclamation dans toute leur ville. C'était selon la pensée des fêtes solennelles. Cela est rappelé au chapitre 23 du Lévitique, au verset 4e, sauf erreur, qu'il devait y avoir une proclamation pour toutes les fêtes de l'Éternel. Il y a donc une invitation qui est donnée au peuple pour obéir pratiquement à cette loi. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Et il est dit au verset 16e, « Et le peuple sortit ». Il y a donc un nouveau caractère qui est donné de ce peuple au moment du réveil, c'est son obéissance. C'est son obéissance. Et enfin, au chapitre 9e, il est dit que la race d'Israël se sépara. Il avait fallu, pour que la race d'Israël puisse se séparer, que la muraille soit construite. Ce qui veut dire qu'il faut que les fondements de la séparation, les bases de cette séparation soient fermement établies pour qu'il y ait une séparation selon Dieu, c'est-à-dire il faut que l'on sache pourquoi on est séparé. Et au moment où il y a tant de tendances pour tout mélanger, il faut hautement proclamer les raisons de cette séparation, il faut reconstruire la muraille. Et alors, on pourra demander au peuple de se séparer. Quelle belle progression dans l'état moral de ce peuple, au milieu de la consternation en lisant cette loi, de la joie en y obéissant, et de l'humiliation ensuite, en raison de ce qu'ils n'avaient pas fait, et de la prise de conscience de ce qu'ils sont. En effet, qu'est-ce que l'humiliation ? L'humiliation représente certainement deux choses. c'est reconnaître ce que nos pères ont fait en mal. Et c'est reconnaître que nous, à leur place, nous aurions fait la même chose. Nous ne prenons pas une position de supériorité par rapport à nos ancêtres, mais nous proclamons devant Dieu, nos ancêtres ont mal agi et nous le reconnaissons parce que nous, nous sommes liés à eux dans cette désobéissance parce que nous aurions pu faire la même chose. Et l'humiliation, ensuite, est une seconde chose, c'est de se mettre d'accord avec Dieu sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, et dire, Seigneur, nous avons mal agi parce que nous ne nous sommes pas mis d'accord avec toi. Aussi, dans l'humiliation, il y a un engagement pour l'avenir, non pas en fonction de nos propres forces, puisque nous avons confessé que nous pouvions agir comme nos pères ont agi, mais en comptant sur les forces de Dieu, en se mettant d'accord avec lui et en comptant sur ses propres sources. Ces deux conditions de l'humiliation, pour qu'elles soient véritables et sincères, il vaut la peine peut-être d'y penser et d'y réfléchir.
Réjouissant tout en étant affligé, telle est l'expression que nous avons dans la première épître de Pierre. Nous avons vu la joie, cette grande joie qui provient de ce que la parole a été ouverte, de ce qu'elle est observée dans sa lettre, dans son esprit. Et il y a aussi l'humiliation telle que nous la trouvons au chapitre 9. On peut dire que nous avions les trois neufs. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Daniel 9, Esdras 9, Néhémie 9, nous parle de l'humiliation, de la confession et, mes amis, Esdras, Daniel et Néhémie, nous avons cela dans le premier chapitre de son livre, il peut dire, moi aussi j'ai péché, et la maison de mon père. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous sommes dans un temps où on veut reculer les bornes que nos pères ont posées, où il y a des tensions, des divisions qui se font jour. Nous voyons là tout l'effort de l'ennemi, toute sa malice, et combien nous avons à nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, et nous emparer comme Timothée, le jeune Timothée, y est invité par l'apôtre Paul de toutes les ressources que Dieu place à notre disposition dans un temps comme le nôtre. Ce péché, le mal, mes amis, nous devons le confesser comme étant notre péché à chacun. Et c'est ici ce qui est fait. Combien nous pouvons nous humilier, mes amis, des défections, des brèches qui sont là sous nos yeux. Les enfants de parents fidèles qui se détournent, qui s'en vont. si nos enfants marchent bien, disait un frère, c'est la grâce de Dieu. Si les enfants marchent mal, c'est ma faute. Ah, ne portons pas un esprit de jugement et de critique sur nos frères, sur nos sœurs, mais prenons sur nous ce que nous voyons dans ces 3-9 dont nous avons parlé, si important de l'Écriture. Nous trouvons en Daniel 9 un homme à genoux. Nous trouvons en Esdras 9 un homme à genoux qui pleure devant Dieu. Et, mes amis, il y a une réponse donnée par Dieu. Eh bien, si la joie est bonne à sa place, c'est ce que nous avons vu, l'humiliation aussi. Que Dieu nous accorde de pouvoir à la fois nous réjouir, et nous pouvons le faire, mes amis, dans les glorieuses perspectives qui sont placées devant nous, à cette fête des tabernacles auquel nous allons avoir part, et c'est le ciel qui s'ouvre. Si elle n'est pas faite, les volets de notre âme ne peuvent s'ouvrir. Mais si elle est faite, eh bien, nous pouvons goûter les compassions de Dieu. Le psalmiste peut dire dans un psaume que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes devenus fort misérables. Que Dieu nous accorde, mes amis. Nous avons vu la joie, mais nous voyons ici l'humiliation, l'humiliation individuelle telle que nous la trouvons dans le premier chapitre de ce livre de Néhémie concernant lui-même, et l'humiliation que nous voyons ici, une humiliation collective.
Quelque chose aussi touche nos cœurs quand nous voyons le peu de Lévites qui restent. Combien sont-ils ? Plus que 8. Si nous lisons dans le livre des Nombres, chapitre 4 et verset 47, il nous est dit, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entraient pour s'employer à l'œuvre du service et à l'œuvre du portage, à l'attente d'assignation, les dénombrés furent 8580. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi sujet de tristesse ? Que reste-t-il dans les réveils, on l'a dit ? Un petit nombre. Ce n'est pas tout le peuple qui est rassemblé. Ce n'est pas tout le peuple de Dieu qui se rassemble, comme nous le voyons même dans ce livre. Mais hélas, nous ne voyons aujourd'hui que de petits résidus. Est-ce que cela doit nous décourager ? Ou il y aurait sans doute des motifs quand nous voyons certains rassemblements s'amenuiser ? Il ne reste plus que les deux ou trois. Alors, que faut-il faire ? Il y a toujours des ressources. Et la ressource par excellence, c'est la prière. Et pensons davantage à ces rassemblements où il y a seulement les deux ou trois, où l'ennemi a travaillé, a dispersé. Et comme dans des temps comme ceux de Néhémie, où il ne reste que quelques lévites, que quelques dons, on pourrait dire, pour édifier l'assemblée. Mais Dieu ne se laisse jamais sans témoignage. Et si nous sommes fidèles, et nous remarquons particulièrement que Néhémie parle de son frère Hanani, qui était un homme fidèle, eh bien que Dieu nous accorde aussi d'être fidèles. Nous n'avons que peu de choses, mais retenons ce qui nous reste. Retenons ces vérités qui sont de toute importance.
et que nous ne soyons pas découragés, parce que le découragement est une arme dans les mains de Satan. Mais il y a celui qui est avec nous. Il y a celui qui nous rassemble. Il y a celui qui fait toute la valeur de ce rassemblement, c'est Jésus lui-même. Et si nous comptons sur lui, eh bien, il y aura de profonds sujets d'encouragement et de reconnaissance envers Dieu.
Les noms dans la parole, quelquefois difficiles à lire, ces listes. Ici, nous avons les noms des Lévites. Nous en avions donc noté 13 au chapitre 8. Ici, ils ne sont plus que 7, on vient de le remarquer. Mais ils expriment quelque chose d'important, c'est le prix qu'a la fidélité pour le cœur de Dieu. Le nom est là. Ils ont fait cela au moment où ils avaient été suscités pour remplir un service vis-à-vis du peuple de Dieu. Et leur nom se trouve enregistré dans l'Écriture. Nous aurons au jour où toutes choses seront connues, n'est-ce pas, où le chapitre 11 des Hébreux remplira, on peut dire, l'éternité de ce que le Seigneur aura produit à sa gloire et par sa grâce dans le cœur de tous ceux qui auront vécu la vie de la foi sur la terre. Nous connaîtrons alors l'histoire de chacun. Mais ici, c'est important de souligner ces Lévites. Et puis, ils sont répétés. On les avait au verset 4, et leur nom se retrouve au verset 5. Il aurait semblé suffisant de dire les Lévites, ces Lévites, ceux dont nous venons de parler. Non, c'est comme si Dieu trouvait un plaisir particulier à mentionner ces noms. Et un frère faisait remarquer, après la réunion de ce matin, que finalement, on distingue, et la parole le fait, Lévites, sacrificateurs, et puis le reste du peuple. Et que dans l'assemblée aujourd'hui, il y a ceux qui sont employés pour un service particulier. Sacrificateurs, tous le sont. Tout racheté est un sacrificateur. Apocalypse 1, verset 5, nous rappelle qu'il nous a lavé de nos péchés dans son sang et il nous a fait sacrificateurs pour son Dieu et Père. Donc la louange, elle est la part de tous, frères et sœurs. Les plus jeunes convertis sont qualifiés comme sacrificateurs. Lévites, voilà, on peut dire, il y a quand même une responsabilité pour tout frère dans l'assemblée. Et ne pas se dire simplement, ce frère est doué pour présenter la parole, c'est sur lui que l'on compte, on va s'asseoir là et puis écouter. C'est une telle attitude, hélas, n'est-ce pas, qu'on retrouve, ça conduit à quoi? Au clergé, au fait qu'on distingue dans l'assemblée ce frère qui enseigne, ou alors on dira même un frère à l'œuvre. Voilà, ça c'est celui qui a la plus grande dignité, puis les autres, ce sont les auditeurs. On ne trouve rien de semblable dans l'Écriture. Les Lévites, tout de même, ils sont là. Ils sont distingués dans ces chapitres. Mais malgré tout, la responsabilité est là pour tout frère de se sentir responsable en tant que Lévite. Peut-être, qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévites? Il y en a qui ne portaient peut-être qu'un crochet ou un cordage. C'est pas grand-chose. On aurait pu dire, mettons tout ça ensemble et confions-le à un chariot. Mais non, chaque Lévite avait son travail. Ça pouvait être un petit travail, mais il en était responsable. Chacun de nous, frères et sœurs, a son service. Service de Lévite. Et c'est important, sans doute, de le rappeler à propos de cette mention des Lévites. Et le nom de ceux que le Seigneur aura employés est gravé, comme pour toujours, dans le livre de l'éternité. Quel que soit le service confié, au bagage, quelque chose qui n'aura eu apparemment aucun relief, que peut-être personne n'aura su, le Seigneur aura soigneusement enregistré dans son livre.
Il y a quatre mots clés dans ce début du chapitre 9. Humiliation, séparation, confession, louange. L'humiliation se traduit par trois éléments. Le jeûne, vêtu de sac, de la terre sur eux. Jeûne qui est le renoncement à soi-même, dans l'oubli des besoins du corps, pour être davantage employé à la gloire de Dieu, aux intérêts du Seigneur au milieu de son peuple. Nous ne serons jamais trop humiliés par la ruine de l'Église à laquelle nous avons ajouté notre propre ruine. Cela devrait nous tenir constamment dans cet état, dans nos cœurs, sans nécessairement le faire voir sur notre visage. Séparation pour Dieu de ce qui est incompatible avec la sainteté de Dieu. Il y a la semence de Dieu, il y a la semence de Satan. Et il y a incompatibilité de nature entre ces deux éléments, si bien que c'est un outrage à la gloire de Dieu que de les unir. Et là encore, nous avons un sujet qui doit nous préoccuper au sein des assemblées pour que nos jeunes ne s'unissent pas à ceux qui n'ont pas la vie de Dieu, qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas aux tribus du peuple de Dieu. Il y a une indication, sans doute on comprend toutes les souffrances que cette séparation a dû entraîner pour ce peuple, pour ces enfants issus d'union qui n'était pas approuvée de Dieu en Israël. Et puis nous voyons au-delà de cette séparation où avec une sainte détermination du cœur, ils ont pratiquer ce qui était conforme à la loi qu'ils venaient de lire, c'est alors qu'ils peuvent faire leur confession. Confession personnelle de leur péché propre. Et là, nous avons aussi pour nous une indication. Il ne s'agit pas de faire une confession vague et générale. Quand David est labouré par la charrue de Dieu quant à son péché, que dit-il ? Contre toi seul, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux. Et chacun, pour son compte, a de quoi se juger devant Dieu, reconnaître sa culpabilité propre, sa participation à la ruine. Voilà la vraie confession. Sans doute, il y a des points qui sont communs et vis-à-vis desquels nous pouvons faire une confession d'assemblée. Ou à quelques frères qui sentent la ruine s'accentuer et qui, à propos de faits connus, sont unis dans une même confession. Cela est agréable à Dieu, sans aucun doute, et il peut donner une issue à sa gloire et pour la préservation de son assemblée ou des assemblées locales. Et alors, dans cet état produit par Dieu lui-même, sans aucun doute, la louange peut atteindre un niveau très élevé. N'avons-nous pas remarqué dans notre vie personnelle parfois que lorsque nous sommes humiliés vraiment devant Dieu, les accents de louange atteignent une élévation que Dieu seul peut produire par son esprit dans nos cœurs. Et cela est agréable à Dieu au plus haut point, car ici, au début, il ne parle même pas de ce que Dieu a fait. Il parle de ce que Dieu est et il bénisse le nom de sa gloire. Bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Ils sont déjà dans leur cœur, dans cette bienheureuse éternité où toute la gloire est donnée à Dieu. Et qu'on bénisse le nom de sa gloire qui était haut élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Tu es le même, le Dieu qui ne change pas. Et nous avons une explication dans nos Bibles, celui qui est, expression qui devient un vrai nom de Dieu, un vrai nom de Dieu.
ce Dieu qui ne change pas si même nous, nous accusons bien des fluctuations dans notre vie spirituelle. Nous avons affaire à ce Dieu qui est digne de toute gloire. Et puissions-nous connaître de tels moments en attendant le séjour dans la gloire, où alors il n'y aura plus de faille dans l'expression de notre louange, et comme nous le chantons quelquefois dans nos cœurs remplis de ta grâce, toi seul auras toute la place à toujours. Oui, notre Dieu est digne de tout honneur, de toute gloire, de toute majesté, et ses lévites atteignent ce point culminant de la louange où ils sont placés dans la présence de Dieu pour exalter sa gloire. Mais cela découlait d'une lecture attentive de la parole de Dieu dont ils s'étaient imprégnés. Ils étaient marqués par l'esprit de l'Écriture et avec quel soin ils se conforment à ses enseignements.